Chapitre 30. Ils mangèrent un petit déjeuner sommaire au lever du soleil, refirent leur paquetage, se le répartirent, puis retournèrent dans la clairière en forme de flèche. Elle semblait bien moins sinistre à la lumière du jour, mais tous trois prirent soin de ne pas trop s'approcher de la boîte métallique zébrée de noir et de jaune. Si Roland gardait un souvenir des cauchemars qu'il avait hantés durant la nuit, il n'en laissait rien paraître. Il avait effectué des corvées matinales, comme il le faisait toujours, dans un silence pensif et obstiné.
« Comment comptes-tu t'y prendre pour ne pas perdre le cap une fois qu'on aura quitté cet endroit ?»
lui demanda Suzanne. « Si les légendes disent vrai, cela ne devrait nous poser aucun problème. Tu te rappelles quand tu m'as parlé de magnétisme ?»
Elle acquiesça. Il fouilla dans sa bourse et finit par en extraire un petit carré de vieux cuir souple. Une longue aiguille couleur argent y était glissée.
« Une boussole ?» s'exclama Eddie. « T'es vraiment un boy scout !»
Roland secoua la tête.
« Tu te trompes ?
Je sais ce que c'est qu'une boussole, bien sûr, mais ça fait plusieurs années que je n'en ai pas vu une. Je me dirige grâce au soleil et aux étoiles. »«
Même en ces temps troublés ?»
demanda Susanna un peu mal à l'aise. Il acquiesça. « Les points cardinaux du monde vont eux aussi à la dérive. »«
Bon Dieu !»
s'exclama Eddie. Il essaya d'imaginer un monde où le nord glissait sournoisement vers l'est ou l'ouest et renonça presque aussitôt. Cette idée le rendait un peu malade, comme lorsqu'il regardait la rue depuis le sommet d'un gratte-ciel.
« Ceci n'est qu'une aiguille, mais elle est en acier et devrait nous faire le même usage qu'une boussole. Nous devons suivre la trajectoire du rayon et cette aiguille va nous la montrer. »
Il fouilla de nouveau dans sa bourse et en sortit un pot en terre cuite aux formes grossières. Une fêlure courait le long de sa paroi. Roland avait réparé avec de la résine cet artefact qu'il avait trouvé près de leur premier campement. Il se dirigea vers le ruisseau, y plongea le pot, puis revint vers Suzanne. Il posa doucement le pot sur la coudoire du fauteuil roulant, et lorsque la surface de l'eau fut uniforme, il y laissa tomber l'aiguille. Elle coula aussitôt au fond.
« Waouh !» dit Eddie. « Génial !
Je me mettrai bien à genoux devant toi, Roland, mais je ne veux pas abîmer le pli de mon pantalon. »
« Ce n'est pas fini. Tiens bien le pot, Susanna. » Elle s'exécuta, et Roland la poussa lentement à travers la clairière. Lorsqu'elle se trouva 3 ou 4 mètres devant la porte, il fit pivoter le fauteuil de sorte qu'elle lui tourna le dos.
« Eddie ! » s'écria-t-elle. « Regarde ça !»
Il se pencha au-dessus du pot, remarquant vaguement que l'eau suintait déjà par la fêlure tant bien que mal réparée par Roland. L'aiguille remontait lentement à la surface. Elle émergea et se stabilisa aussi sereine qu'un quelconque bouchon. Elle était rigoureusement perpendiculaire à la porte et pointée vers la vieille forêt devant eux.
Bon Dieu de merde, une aiguille flottante. Maintenant j'aurais vraiment tout vu.
Tiens bien le pot, Susanna. Elle le maintint en position pendant que Roland poussait le fauteuil dans la clairière après lui avoir fait faire un quart de tour. L'aiguille se mit à bouger, tourna en rond quelques instants, puis coula au fond du pot. Lorsque Roland fit regagner au fauteuil sa position initiale, l'aiguille remonta à la surface et indiqua la même direction que précédemment.
« Si nous avions de la limaille de fer et une feuille de papier, dit le pistolero, il nous suffirait de saupoudrer le papier de limaille et celle-ci formerait une ligne indiquant exactement la même direction.
« Est-ce que ton aiguille marchera encore quand on se sera éloigné du portail ?» demanda Eddie.
Roland hocha la tête en signe d'assentiment.
« Et ce n'est pas tout. Nous pouvons bel et bien voir le rayon. »
Susanna regarda par-dessus son épaule. Son coude heurta légèrement le pot. L'aiguille pivota lorsque les eaux s'agitèrent sous le choc. puis reprit fermement sa position initiale.
« Pas comme ça, » dit Roland. « Baissez les yeux, tous les deux. Eddie, regarde tes pieds. Et toi, Susanna, regarde tes cuisses. »
Tous deux s'exécutèrent.
« Quand je vous dirai de lever les yeux, regardez droit devant vous, dans la direction indiquée par l'aiguille. Ne fixez aucun objet, laissez vos yeux se poser là où ils le veulent.
Attention, allez-y. » Ils obéirent. Durant quelques instants, Eddie ne vit que la forêt. Il s'efforça de contraindre ses yeux à se détendre, et soudain, il vit, tout comme il avait vu la forme de la fronde dans le bout de bois, et il sut pourquoi Roland lui avait dit de ne fixer aucun objet. Le rayon exerçait son effet tout le long de sa trajectoire, mais cet effet était subtil. Les aiguilles des pins et des épicières indiquaient la même direction que l'aiguille de fer. Les buissons poussaient légèrement de travers, inclinés dans la direction du rayon. Les arbres abattus par l'ours pour se dégager un espace n'étaient pas tous tombés le long de ce sentier camouflé qui courait vers le sud-est, à en croire son sens de l'orientation, mais c'était le cas de la majorité d'entre eux, comme si la force issue de la boîte les avait poussés dans cette direction, infléchissant leur chute. Les ombres qui s'étendaient sur le sol fournissaient la preuve la plus éclatante de ce phénomène. Comme le soleil se levait, elles étaient toutes orientées vers l'ouest, bien entendu. Mais lorsqu'Eddie regarda en direction du sud-est, il distingua un fin réseau d'arêtes le long de la ligne indiquée par l'aiguille.
« Je vois vaguement quelque chose, » dit Susanna d'une voix dubitative, « mais... »
« Regarde les ombres. Les ombres, Susie. »
Eddie vit ses yeux s'écarquiller lorsqu'elle prit conscience du phénomène.
« Mon Dieu, je le vois, je le vois. On dirait une raie dans des cheveux. »
À présent qu'Eddie avait aperçu le rayon, il lui était impossible de ne plus le voir. Une vague allée traversant les broussailles, une ligne droite qui matérialisait la trajectoire du rayon. Il prit soudain conscience de la puissance de cette force qui traversait l'air, et qui le traversait également comme des rayons X, et dut lutter contre une violente envie de faire un pas de côté.
« Hé, Roland, ce truc ne va pas me rendre stérile au moins ?»
Roland haussa les épaules et eut un petit sourire.
« C'est comme le lit d'une rivière, » s'émerveilla Susanna. « Un lit envahi par la végétation est presque invisible, mais quand même présent.
Les ombres ne changeront pas d'aspect tant que nous resterons sur le sentier du rayon, n'est-ce pas ?»«
Non, » dit Roland.
« Elles changeront de direction à mesure que le soleil montera dans le ciel, bien entendu, mais nous arriverons toujours à distinguer la course du rayon. Rappelle-toi qu'il a suivi ce même sentier pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années.
Regardez, regardez le ciel. »
Ils levèrent la tête et virent que les cirrus étaient eux aussi affectés quand ils croisaient la trajectoire du rayon et qu'ils se déplaçaient plus vite lorsqu'ils étaient sous son emprise. Ils étaient détournés vers le sud-est, poussés en direction de la tour sombre.
Vous voyez, même les nuages lui obéissent.
Un petit groupe d'oiseaux volait dans le ciel. Lorsqu'ils croisèrent la trajectoire du rayon, ils prirent tous un instant la direction du sud-est. Eddie en croyait à peine ses yeux. Dès que les oiseaux échappèrent à l'influence du rayon, ils reprirent leur direction initiale.
« Eh bien, je suppose qu'il faut se mettre en route, » dit-il. « Même un périple de 1000 kilomètres commence par un premier pas, et toutes ces sortes de choses. »«
Un instant !» dit Susanna en se tournant vers Roland.
« Le voyage ne fera pas seulement 1000 kilomètres, n'est-ce pas ? Plus maintenant. Quelle distance allons-nous parcourir, Roland ? 5000 kilomètres ? 10 000 ?
Je ne peux pas le dire, ce sera très long. »
« Alors comment va-t-on arriver au but tant que vous serez obligé de pousser ce putain de fauteuil ? On aura du pot si on fait 5 kilomètres par jour dans ces drawers, et tu le sais parfaitement. »«
La route est ouverte, » dit patiemment Roland, « et cela suffit pour le moment. L'heure viendra peut-être, Susanodine, où nous voyagerons plus vite que tu ne le crois.
Ah ouais ?
Elle le regarda d'un air provoquant, et les deux hommes virent dans ses yeux une dangereuse lueur qui leur rappela Detta Walker.
T'as prévu une course de Formule 1 ?
Dans ce cas, ce serait sympa de sortir une route goudronnée de ta poche, bordel !
La route et les moyens de transport que nous emprunterons finiront par changer. C'est toujours ainsi que ça se passe.
Susanna fit un geste de la main en direction du pistolero.
Cause toujours. Tu parles comme ma mère, attendons la main de Dieu, elle disait toujours.
Et nous n'avons pas reçu ?
Elle le regarda en silence un long moment, surprise, puis rejeta la tête en arrière et éclata de rire à la face du ciel.
Eh bien, tout dépend du point de vue d'où on se place.
Tout ce que je peux dire, Roland, c'est que s'il nous a gratifié de sa manne jusqu'ici, je n'aimerais pas qu'il décide de nous laisser mourir de faim.
Allez, fichons le camp, dit Eddie. Je ne veux pas rester ici une minute de plus, cet endroit me met mal à l'aise.
C'était la vérité, mais ce n'était pas toute la vérité. Il était également impatient de fouler ce sentier caché, cette autoroute occulte. Chaque pas qu'il ferait le rapprocherait du champ de roses et de la tour qui le dominait de sa masse. Il se rendit compte, non sans émerveillement, qu'il était résolu à voir la tour, ou à périr à la tâche.
« Félicitations, Roland, se dit-il. Tu as réussi, je suis un converti, que quelqu'un chante Alléluia. »
Il y a un autre détail à régler avant de nous mettre en route. Roland se pencha et dénoua la lanière passée autour de sa cuisse gauche. Puis il déboucla lentement son ceinturon.
« Qu'est-ce que tu fabriques ?»
demanda Eddie. Roland ôta son ceinturon et le lui tendit. « Tu sais très bien pourquoi je fais ça, » dit-il le plus posément du monde.
« Remets ton ceinturon, mec !»
Eddie sentit un horrible grouillement d'émotion s'agiter en lui, sentit ses doigts trembler dans ses poings fermés.
« Qu'est-ce que tu as donc dans la tête ?»«
Je suis en train de perdre l'esprit morceau par morceau. Tant que la blessure qui est en moi ne sera pas guérie, si elle guérit jamais, je ne serai pas digne de porter ceci. Et tu le sais parfaitement. »«
Prends-le, Eddie. » dit doucement Susanna.
Si tu n'avais pas porté ce putain de ceinturon hier soir quand cette chauve-souris m'a foncé dessus, c'est moi qui aurais perdu la tête, et pour de bon !
Le pistolero resta muet et persista à lui tendre la seule arme qui lui restait. À en juger par la posture qu'il avait adoptée, il était prêt à attendre toute la journée si c'était nécessaire.
« D'accord ! » s'écria Eddie. « D'accord ! Bordel ! »
Il arracha le ceinturon de la main de Roland et le passa à la va-vite autour de sa taille. Il aurait dû se sentir soulagé, supposa-t-il. N'avait-il pas, quelques heures plus tôt, contemplé le revolver posé près de la main de Roland, se demandant ce qui arriverait si le pistolero perdait vraiment les pédales? Susanna et lui n'en avaient-ils pas discuté? Mais c'était pas du soulagement qu'il éprouvait. C'était un mélange de peur, de honte et de tristesse au-delà des larmes. Il avait l'air si bizarre sans ses revolvers, si anormal.
C'est bon. Maintenant que les connards d'apprentis sont armés et que le maître est désarmé, on peut se mettre en route, s'il vous plaît? Si une grosse bête surgit d'un buisson pour nous sauter dessus, Roland, tu pourras toujours la descendre d'un coup de couteau.
Oh, oui, murmura-t-il. J'ai failli oublier.
Il attrapa le couteau dans sa bourse et le tendit à Eddie.
« C'est ridicule !» s'écria celui-ci.
« La vie est ridicule !»«
Ouais, écris ça sur une carte postale et envoie-la au Reader's Digest !»
Eddie passa le couteau à sa ceinture d'un geste sec et jeta un regard de défi à Roland.
« Et maintenant, on peut y aller ?»«
Il y a encore une chose, » dit Roland.
« Seigneur Dieu !»
Les lèvres de Roland esquissèrent un sourire.
C'était pour rire, dit-il.
Eddie en resta bouche bée. Près de lui, Susanna partit d'un nouveau rire. Le bruit monta dans le matin calme, aussi mélodieux que le chant d'un carillon.